Le journal avec vous, Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, les deux font la paire. Joe Biden a présenté sa colistière Kamala Harris. Ils promettent ensemble de reconstruire l'Amérique après Donald Trump. Les autres titres, Laurence.
Le durcissement des conditions de retour en France pour certains citoyens bloqués à l'étranger à cause du Covid. Des franco-algériens notamment, de très jeunes enfants, ne peuvent pas être rapatriés. Pour la première fois, des agriculteurs s'en prennent à d'autres agriculteurs du glyphosate concentré utilisé comme arme chimique pour détruire une exploitation bio près d'Aix-en-Provence. La fin de la canicule va peut-être calmer les ardeurs de certains baigneurs qui prennent beaucoup de risques parfois pour se rafraîchir. Et puis nous reviendrons sur la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des Champions.
Les invités de la matinale à 7h50, l'écologiste Bruno Bernard, nouveau président de la métropole de Lyon, mais pas complètement novice en politique, vous le verrez. Et puis à 8h20, dans le grand entretien, Roxana Maracineanu, la ministre des sports bien malmenée depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000, le standard est ouvert, ou sur l'appli franceinter.fr.
France Inter.
Des attaques et des sourires. Joe Biden, le candidat démocrate à la Maison-Blanche, a présenté officiellement il y a quelques heures sa colistière, la sénatrice Kamala Harris. Un discours cinglant de la sénatrice, future vice-présidente, si Joe Biden est élu en novembre. Discours qui n'aura pas épargné Donald Trump. Une économie au plus bas, racisme et injustice généralisées, gestion dramatique de la pandémie, un pays en lambeaux comme sa réputation dans le monde. Donald Trump, a dit Kamala Harris, n'est pas à la hauteur. Joe Biden et Kamala Harris ont aussi affiché une grande complicité et l'alchimie de ce ticket démocrate, Loïc Loury, semblait au rendez-vous.
À moins de 3 mois de la présidentielle, le décor, un gymnase presque vide, n'a pas la pompe de circonstances. Covid oblige, il faut faire avec. C'est donc ici, dans sa ville de Wilmington, que Joe Biden a présenté sa nouvelle colistière. Kamala est intelligente, forte, elle a de l'expérience, elle sera prête pour ce travail le premier jour. Nous sommes tous les deux prêts à travailler pour reconstruire ce pays. Entre le candidat et la sénatrice, la complicité semble sincère et c'est solennel qu'elle monte à la tribune et souligne le caractère historique de sa nomination. Je suis si fier d'être ici avec toi et je le suis en pensant pleinement à toutes les femmes ambitieuses, héroïques, dont le sacrifice rend possible aujourd'hui ma présence ici. Née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, Kamala Harris évoque aussi ses origines ou sa proximité avec les Biden, mais elle attaque surtout Donald Trump sur sa gestion de la crise sanitaire, le sujet de cette campagne. Il y a une raison pour laquelle cette crise a frappé l'Amérique plus durement que n'importe quel autre pays développé. C'est à cause de l'échec de Donald Trump. Car pour reconstruire le pays, il faudra d'abord gagner le 3 novembre. New York, Loïc Loury, France Inter.
Thank you and may God bless the United States of America. Thank you.
En tout cas, le duo a déjà électrisé les donateurs. Le candidat démocrate a levé 26 millions de dollars en 24 heures. La canicule s'achève en France, mais le Covid-19 ne connaît pas de répit. Le port du masque à l'extérieur s'étend de plus en plus à de plus en plus de villes et de sites touristiques. La France a d'ailleurs ajouté 16 nouveaux pays à une liste rouge de pays où le virus circule activement, ce qui obligera à partir de lundi prochain les voyageurs français en provenance de ces pays à passer un test PCR avant leur départ ou à leur arrivée en France, par exemple le Monténégro, l'Argentine, la République dominicaine ou encore le Mexique.
Notre série sur les ressortissants français bloqués à travers le monde à cause du coronavirus, on s'intéresse ce matin aux franco-algériens.
Ils sont des dizaines toujours empêchés de rentrer chez eux, que ce soit en France ou en Algérie. Le rapatriement s'organise par avion. Depuis le mois de mars, 50 000 binationaux ont été rapatriés en France, mais tout le monde ne peut pas en profiter, Sébastien Berriot.
Ce sont des familles entières qui restent aujourd'hui bloquées sur le sol algérien avec le sentiment d'avoir été abandonnées. Beaucoup n'ont pas les moyens financiers pour payer le rapatriement en avion. Et puis il y a ceux qui étaient venus en Algérie avec leur voiture. Sarah Djoudi reçoit de très nombreux messages en ce sens sur la page de soutien qu'elle a créée sur Facebook.
Malheureusement, il n'y a eu que 3 traversées de rapatriement qui ont été proposées pour ces voyageurs. Ils n'ont pas du tout d'informations sur des prochaines traversées pour pouvoir rentrer en France. Ils ont la possibilité effectivement de laisser leur véhicule en Algérie, de mettre ça sur cale et de pouvoir rentrer en avion. Cette solution-là n'est pas possible parce que tout simplement, ils ont besoin de leur voiture en France.
Difficulté aussi pour les binationaux qui vivent en Algérie et qui étaient venus voir leur famille en France. Impossible de repartir à cause de la situation sanitaire en Algérie. Aïcha Zellal a ses parents chez elle à Perpignan depuis le mois de mars.
Les vacances qui devaient durer 10 jours Donc un budget de 10 jours s'est transformé en budget de 4 mois. Donc c'était un peu compliqué.
Situation critique également pour les enfants seuls, bloqués en Algérie alors que les parents, eux, sont en France. Pour les moins de 4 ans, le rapatriement en avion n'est pas possible. Alors les parents en sont réduits à lancer des appels sur les réseaux sociaux pour trouver des accompagnateurs pour voyager avec les enfants.
Sébastien Berriot. Florence Parly, la ministre des Armées, est attendue pour 48 heures à Beyrouth. 750 soldats français sont engagés dans les opérations de déblaiement du port qui doivent démarrer aujourd'hui. Et puis demain, premier rendez-vous important dans l'enquête sur l'explosion qui a dévasté la capitale libanaise. Le parquet va démarrer ses auditions de ministres ou ex-ministres. Une classe politique corrompue accusée par la rue de négligence. Et il en est un qui était au cœur de ce pouvoir corrompu. Un haut fonctionnaire du ministère des Finances. Il a démissionné avec fracas fin juin. Il ne voulait plus être complice de ce qui se passait. Pour Alain Bifani, en poste depuis 2000, tout a été fait, dit-il, pour faire avorter le plan de sauvetage avec le FMI. Cet homme livre aujourd'hui quelques pistes pour que le Liban remonte la pente. Christian Chéneau.
Il a finalement jeté l'éponge, écœuré par l'influence de l'oligarchie politico-financière qui a mené le pays à la faillite. À contre-cœur, Alain Bifani a décidé de claquer la porte du ministère des Finances. C'était fin juin, il faisait alors partie de l'équipe d'experts libanais qui négociait avec le FMI.
Je pensais que la moindre des choses était que ceux qui ont profité du système soient les premiers à contribuer, et non pas qu'ils soient justement les plus protégés et qu'ils balancent toutes les pertes qu'on a accumulées au sein de la Banque centrale et dans le système bancaire sur le malheureux déposant et sur le citoyen lambda.
Alain Bifani estime à environ 6 milliards de dollars l'évasion financière des personnalités influentes vers des comptes à l'étranger. Pour lui, le redressement du Liban passe par une nouvelle gouvernance.
Je crois qu'il y a des urgences partout, mais la première urgence, c'est que les gens sentent que la justice ne s'arrête plus à un certain niveau, qu'elle est capable de monter jusqu'au plus haut de la pyramide. Lorsque les Libanais verront les premières grandes têtes tomber, eh ben ils seront rassurés et les autres têtes auront intérêt à bien se comporter à partir de ce moment-là.
Des sanctions ciblées contre les corrompus pourraient, selon lui, appuyer cette opération main propre dont rêvent tous les Libanais.
Christian Chéneau, un nouveau manifestant a été tué hier à Minsk en Biélorussie. La réélection dimanche d'Alexandre Loukachenko a déclenché une grande vague de protestations matées sans ménagement avec au moins 6000 arrestations, 2 morts donc désormais, et de nombreuses violences policières. L'écrivaine Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature en 2015, âgée de 72 ans, implore le président Loukachenko de partir avant d'entraîner, dit-elle, l'ex-république soviétique dans la guerre civile.
Quand du glyphosate concentré est utilisé comme arme chimique pour détruire une exploitation bio, l'histoire s'est passée près d'Aix-en-Provence, au puits Sainte-Réparade.
Le pesticide concentré est dangereux à une telle dose, a été déversé intentionnellement sur les 4000 mètres carrés de serre maraîchère bio du couple Arlo. Or, ce glyphosate non dilué est impossible pour un particulier à se procurer dans le commerce. FQFD, les faits ont été vraisemblablement commis par un agriculteur conventionnel contre son confrère qui, lui, cultive en bio. Des agriculteurs qui s'en prennent ainsi à d'autres agriculteurs. C'est une première, mais une première très dangereuse, car l'exploitant, avant de réaliser ce qui était arrivé à ses cultures, a continué à travailler et il est tombé malade. Le récit avec Anne-Laure Barral.
Pourtant, leur exploitation s'appelle les Jardins de Paradis. Mais pour ce couple de maraîchers installés en bio au puits Sainte-Réparade depuis plus de 10 ans, cet été vira l'enfer. Surtout depuis que début juillet, ils ont découvert une dizaine de leurs serres détruites avec leurs plants de tomates à l'intérieur très mal en point.
Mon mari, en fait, il a continué à nettoyer ses tomates une semaine à peu près après avoir travaillé. C'était des vomissements, des diarrhées, des troubles de la vision et puis une perte d'énergie totale.
Normal que Tristan Arlo soit tombé malade, des analyses viennent de montrer que les tomates ont en fait été aspergés de hautes doses de glyphosate. Oriane Arlo estime pourtant avoir eu de la chance.
Moi, chaque semaine, avec nos filles, on prend des barquettes, on va ramasser nos fraises, on va ramasser nos tomates. Cette semaine-là, il s'est trouvé qu'on n'y est pas allé. Mais elles aussi, elles ont 4 et 5 ans, elles auraient très bien pu se retrouver intoxiquées comme l'a été mon mari.
Au-delà des 35 000 euros de pertes de marchandises, les serres sont aujourd'hui polluées et Oriane Arlo ne peut plus produire en bio à l'intérieur.
Donc là, je perds toutes mes cultures d'été, je perds toute ma capacité de plantation d'automne. Si le but c'était de faire mourir mon entreprise, on aurait pu tuer mes cultures différemment. On est en bio et on détruit notre ferme à coups de pesticides. Je crois que le message est assez clair. Ouais.
En attendant que les auteurs se retrouvent éventuellement au tribunal, les époux Arlo, eux, ont reçu le soutien de leurs clients puisqu'ils font de la vente directe pour éviter de mettre la clé sous la porte.
Anne-Laure Barral, les noyades ont baissé de 22% en juin et en juillet par rapport aux années précédentes. Conséquence du Covid-19, car les piscines sont moins fréquentées en raison d'un protocole sanitaire assez contraignant et la fréquentation touristique est en baisse dans certaines régions. Mais depuis le mois d'août, on constate un certain relâchement lié aux fortes chaleurs. Certains baigneurs ont tendance à oublier les règles élémentaires de sécurité. C'est le reportage de Yann Gallic à Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne.
À Moret-sur-Loing, la baignade est interdite. Pourtant, ils sont nombreux à venir nager dans la rivière. Les jeunes se rassemblent sur le pont du centre-ville pour faire des concours de plongeon, comme Bilal, Hamza et Younes.
On touche vite fait le fond, vite fait.
Vous avez pas peur de sauter du pont ?
Au début, la première fois, dès qu'on saute, ouais, ça fait peur. Et après, dès qu'on le fait une fois, on peut le refaire 10 fois. Mais...
Ça peut être dangereux quand même.
Mais après, chaque chose a un risque.
Donc vous êtes prêt à prendre le risque ?
Ouais.
Rémi De Georges est l'un des deux médiateurs municipaux mobilisés cet été pour faire de la prévention auprès des baigneurs et des plongeurs.
L'autre jour, en vérité, on nous a appelés parce qu'il y a une personne qui sautait avec son enfant dans les bras du pont. Si jamais il atterrit sur le... un petit peu court... Il y a une herse en fer pour retenir l'eau. Il y a au fond des gros cailloux. On se retrouve des fois avec des cas qui sont un petit peu problématiques, des gens qui prennent des risques inconsidérés.
Mais les médiateurs sont souvent dépassés car il y a trop de monde, explique Marianne Savalbonnet, la maire déléguée de Moret-sur-Loing.
Ce week-end, on a approché les 1000 personnes, ce qui est non seulement dangereux par rapport aux baignades, par rapport à la situation sanitaire aujourd'hui, par rapport au Covid. C'est vraiment devenu aujourd'hui assez compliqué à endiguer.
La maire de Moret-sur-Loing interpelle aujourd'hui la préfecture pour que soient notamment renforcés les contrôles de police le long de la rivière.
Yann Gallic, l'espoir d'un historique sacre européen est toujours en vie. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié hier soir à Lisbonne pour les demi-finales de la Ligue des Champions face aux Italiens de l'Atalanta Bergame. Victoire 2-1. Au bord de l'abîme, le sursaut parisien est venu à la 90e minute. But parisien de Marquinhos puis de Choupo-Moting, l'éternel remplaçant toujours exemplaire Alexandre Vaux.
Deux buts en 149 secondes seulement. Mal embarqué, les Parisiens se sont accrochés. Les entrées de Kylian Mbappé et Eric Choupo-Moting ont fait la différence. La belle histoire pour le dernier habituellement remplaçant qui a offert la qualification au PSG.
Pendant tout le match, on n'a pas perdu la confiance et l'espoir. Et on a montré ça aux dernières minutes, tout est possible dans le football.
Longtemps esselé et en manque de réussite, Neymar a lui été tout de même au rendez-vous. La star brésilienne, blessée ces deux dernières saisons en huitième de finale, ne rêve plus que d'une chose, la finale. Il l'a dit au micro d'RMC.
Personne ne va m'enlever de la tête que j'ai envie d'aller jusqu'à la finale. Il va falloir régler ce qu'on peut pour faire un autre grand match. Et j'espère qu'on ira en finale.
Pour cela, il faudra d'abord battre les Allemands de Leipzig ou les Espagnols de l'Atlético Madrid. Et puis, Paris devra faire sans Marco Verratti. Et peut-être bien Keylor Navas aussi, le gardien parisien qui refusait de quitter la pelouse hier soir et finalement sorti à 10 minutes de la fin, touché à la cuisse. Il devra passer des examens dans les prochaines heures, mais sa présence mardi semble compromise.
Des Parisiens qui connaîtront ce soir leur adversaire pour des demi-finales programmées, elles, mardi prochain.
Merci Laurence Thomas.